Bonsoir ou bonjour à ceux qui écouteront cet enregistrement audio. C'est avec plaisir que nous poursuivons l'enregistrement de ces études bibliques qui ont lieu habituellement le jeudi soir et qui seront du coup mises en ligne aussi dans la journée du jeudi pour que, comme à notre habitude, nous puissions nous ressourcer dans la parole de Dieu. Même si nous sommes isolés en confinement en raison de la crise sanitaire qui est la nôtre en ce moment, nous pouvons continuer à alimenter notre foi aussi par des réflexions fondées sur la parole de Dieu. Avant même de passer à l'étude, une étude qui sera sur le thème de la mission que Dieu nous a confiée, la mission de Dieu dans laquelle nous sommes appelés à entrer, il m'a semblé bon de prendre un petit cœur qui s'intitule « Ô ma joie et mon espérance » pour nous aider à nous placer chacun maintenant devant Dieu. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Et je vais maintenant encore prier avant de passer à l'étude. Notre Dieu, nous sommes reconnaissants de pouvoir nous appuyer en ces temps particuliers sur ta parole, parce qu'elle est la vérité, elle est le fondement de notre vie, de notre salut, elle nous explique aussi quelle a été ton incroyable générosité, toi qui es venu sur la terre pour nous sauver, parce que tu voulais partager une éternité de bonheur avec tous ceux qui placeraient leur foi en toi. Je suis reconnaissant, Seigneur, de faire partie de cette famille, de ce peuple, que dans ton amour tu as voulu sauver de ce monde abîmé par le péché, de ce monde marqué par le mal. Et je veux te prier pour nous aussi, afin que nous soyons des témoins de cet amour, de cette générosité autour de nous, là où tu nous as placés, quelles que soient les circonstances. Montre-nous, Seigneur, le chemin. Donne-nous d'être créatifs pour trouver les moyens d'être témoins de toi auprès de ceux que tu nous as placés. Nous voulons te faire confiance pour cela et te demandons maintenant que ton esprit travaille notre cœur et notre intelligence afin que nous comprenions ta parole et que nous puissions être encouragés à la mettre en pratique. Amen. Alors normalement ce soir c'était le service évangélisation qui devait animer la soirée et on avait prévu un temps de prière aussi, d'intercession concernant différents projets qui peut-être seront compromis comme la Foire Expo, Bouge ta ville, je ne sais pas si Bouge ta ville aura lieu début juillet, mais je l'espère néanmoins. Et du coup, c'est dans ce thème que nous allons rester, ce thème de l'évangélisation, de la mission. Quelle est la mission de l'Église ? Quand on pose cette question, les réponses sont multiples. Il y a ceux qui disent que c'est d'abord la proclamation de la parole de Dieu, l'évangélisation. D'autres qui disent que c'est manifester l'amour de Dieu en acte, de façon non verbale, et mettre l'accent du coup davantage sur l'engagement social du chrétien. Les théologiens discutent depuis des siècles pour savoir si l'homme et l'Église ont reçu des mandats distincts, un mandat culturel et un mandat missionnaire, ou si finalement ces deux mandats ne seraient la facette que d'un seul mandat. Ce débat est intéressant d'un point de vue intellectuel, mais dans la pratique, j'ai bien l'impression que cela ne change pas grand-chose. Tout le monde est assez d'accord pour dire que nous avons besoin à la fois de parler et d'agir conformément à nos paroles et à notre foi dans ce monde qui en a besoin. Et surtout, je m'interroge. La question « Quelle est la mission de l'Église » est-elle une bonne question ? Est-ce qu'au final, la question ne serait pas mal posée ? Et c'est Christopher Wright, dans un ouvrage intitulé « La mission de Dieu » qui développe ce point. Et je vous lis maintenant un extrait de ce qu'il dit. « Ce n'est pas tant que Dieu a une mission pour son Église dans le monde, mais plutôt que Dieu a une Église pour sa mission dans le monde. La mission n'a pas été faite pour l'Église, C'est l'Église qui a été faite pour la mission de Dieu. Avant de parler de mission de l'Église, il faut comprendre la mission de Dieu. Une Église en mission, ce n'est pas une Église qui accomplit sa mission, c'est une Église qui entre dans une mission encore plus grande, la mission de Dieu. Les missiologues, pour dire cela, utilisent une expression latine, la missio Dei. Ça signifie tout simplement la mission de Dieu. Mais comme des fois en théologie, on aime un peu compliquer les choses, au lieu de parler français, on va parler latin. Le Dieu qui nous est présenté dans la Bible, effectivement, dès la première page, est un Dieu en mission, on pourrait dire. Un Dieu en action. Dieu est certes immuable, il ne change pas, mais il n'est pas immobile. La mission de Dieu, la toute première que nous avons dans la parole de Dieu, c'est de créer un monde parfait. Et Dieu, nous le voyons, ne s'est reposé que lorsque sa mission a été accomplie, lorsqu'il a constaté à la fin du sixième jour que ce qu'il avait fait n'était pas seulement bon comme les jours précédents, mais très bon. Malheureusement, comme vous le savez, cette perfection initiale a vite été gâchée. Et c'est déjà en Genèse 3 que le mal est apparu sur terre. Que le péché est venu abîmer la création très bonne de Dieu. À cause de cela, l'humanité qui avait été créée en image de Dieu, cette image de Dieu a été comme défigurée. Elle subsiste, mais elle a été abîmée, défigurée. Et depuis cet instant, dans le cœur de Dieu, ce qu'il décide de faire, ce n'est pas de laisser l'humanité dans cet état-là, c'est d'entrer en mission pour restaurer ce monde qui est marqué, qui est abîmé par le mal. C'est ce dont parle tout le reste de la Bible. La façon dont Dieu s'est impliqué dans l'histoire du monde pour le racheter. On peut penser à différentes alliances que Dieu a faites, aux promesses qu'il a données à Noé, à Abraham, avec l'ensemble du peuple d'Israël, avec Moïse, la loi. Il s'est révélé aussi pour faire connaître sa volonté à travers les prophètes. On peut penser à beaucoup de choses. Dieu s'est impliqué dans l'histoire du monde pour le racheter. Et avec comme point central, comme point incontournable de cette mission de Dieu, la venue et l'œuvre de Jésus-Christ. Et enfin, nous savons que le repos, un autre repos, mais qui ressemble un petit peu à ce repos initial de Dieu qui se repose de la création, ce repos est à venir encore. Un repos plus grand peut-être encore est à venir. Dieu ne se reposera pas de restaurer le monde tant qu'il n'aura pas pleinement accompli cette mission qu'il a choisie pour nous, par grâce. C'est dans les dernières pages de la Bible qu'on verra qu'avec l'humanité réconciliée, un monde racheté, dans une nouvelle création, que Dieu pourra enfin dire que cette deuxième mission ou cette restauration de la première mission de création est accomplie. Je vous propose donc de lire un des grands textes bibliques qui nous parle de l'incarnation, le fait que Jésus soit venu sur la terre, mais de le lire dans l'optique de comprendre quelle est la mission de Dieu dans laquelle nous sommes appelés à entrer. Ce sera du coup dans l'évangile de Jean, chapitre 1, les versets 1 à 18. Des fois on appelle ça le prologue de Jean, ça veut dire le début tout simplement de l'évangile de Jean, comme une sorte d'introduction qui va introduire les grands thèmes ensuite qui seront développés dans l'évangile de Jean. Nous allons parler de la gloire, de la lumière, de la vie, de la vérité, tous ces thèmes qui seront ensuite encore développés et magnifiquement illustrés par le ministère de Jésus-Christ. Nous allons donc lire les versets 1 à 18. Dans une version simple, la version parole de vie ou français fondamental. Donc versets 1 à 18 de Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçu. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde, et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue, et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non pas par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jean est son témoin. Il affirme d'une voix forte, « C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, « L'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait déjà avant moi. » Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour et de plus en plus. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître. Premier point, une mission qui n'est pas la nôtre, mais celle de Dieu. La mission de Dieu n'est pas la nôtre, mais celle de Dieu. Elle remonte à la nuit des temps, à l'origine de l'univers. Elle nous précède. Au commencement était la parole. Par elle, Dieu a fait toute chose et il n'a rien fait sans elle. Et elle nous rejoint. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour et de plus en plus. C'est le même Dieu qui a tout créé et qui est venu en Jésus-Christ. C'est d'une certaine façon, d'une certaine manière, la même mission, ou plutôt, on pourrait dire, les deux faces de la même mission. Dieu a tout créé et ensuite Dieu restaure tout ce qu'il a créé. Alors élargissons notre regard. Prenons conscience que l'Église, depuis 2000 ans, et malgré ses imperfections et même ses fautes, est une part seulement de la mission de Dieu. Et l'Église locale à laquelle j'appartiens est une toute petite part de cette Église universelle, elle-même une part de la mission de Dieu. Et moi, je suis une part de l'Église locale à laquelle j'appartiens, qui est une petite part seulement de cette Église universelle, elle-même une part de la mission de Dieu. Élargissons notre regard pour comprendre le privilège extraordinaire de faire humblement partie d'une mission si grande, celle de Dieu. Et cela doit nous déculpabiliser. Cette mission, ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas à moi de la porter, de faire en sorte qu'elle aboutisse. Ce n'est pas celle non plus de mon Église. Cette mission ne repose pas sur nos épaules. C'est la mission de Dieu. C'est lui qui en a l'initiative et qui la mène. C'est lui qui l'accomplit, pour une petite partie seulement, avec moi, avec nous. La vision de l'Évangile est universelle et éternelle. C'est une grande vision. Et il nous faut apprendre à penser de façon globale pour ensuite agir de façon locale. D'ailleurs, les missiologues, à ce titre-là, ont inventé une expression, un mot, un néologisme glocal. Il faut penser global et agir local. Glocal. Notre vision de l'Évangile est souvent locale alors qu'elle devrait être globale. Elle est quelquefois trop limitée, ponctuelle. Tandis que la mission de Dieu vient du fond des âges, elle a une dimension universelle et même cosmique, certains textes nous le montrent. Ma vision de la mission de Dieu se limite malheureusement souvent à ma vie, voire à mon Église, se restreint à telle action d'évangélisation ou tel témoignage concret. Alors oui, élargissons notre regard et ouvrons-nous à la mission de Dieu, ça va nous déculpabiliser, nous libérer et nous motiver encore davantage. Deuxième point, une mission qui nous fait briller de la lumière de Dieu. Quel rôle sommes-nous amenés à jouer dans cette mission de Dieu? Car nous en avons bien un. Celui que Jésus-Christ lui-même a confié à ses disciples à la fin de l'évangile de Jean, il dit « Comme le Père m'a envoyé, moi, je vous envoie. » Ça, c'est dans Jean 20, verset 21. Et il y a dans ces paroles un passage de relais. La mission de Dieu s'accomplit par Jésus-Christ, puis ensuite à travers ses disciples. Ce qui est vrai de la mission de Dieu à travers Jésus-Christ doit être aussi vrai d'une certaine façon de la mission de Dieu à travers ses disciples, son Église, c'est-à-dire nous. Mais ce doit être un peu à la manière de Jean-Baptiste dans notre texte. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Il dit « L'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait déjà avant moi. » Alors nous, ce qu'on va dire aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait les mêmes paroles que Jean-Baptiste, mais on va dire « L'homme qui est venu avant nous est plus important que nous, parce qu'il existait avant nous et qu'il existera avec nous pour l'éternité. » La mission de Jean-Baptiste, c'était finalement de s'effacer devant la lumière tellement plus puissante et plus belle de Jésus-Christ. Il doit en être de même pour nous. Nous sommes bien appelés à briller de la lumière que Jésus-Christ dépose en nous, pas de notre lumière. Briller de notre lumière, ça serait peut-être se mettre en avant, ou ça serait peut-être de l'orgueil. Nous sommes invités, au contraire, à laisser une lumière surnaturelle jaillir de nous. Pour cela, il nous faut puiser à la source. Si nous voulons entrer dans la mission de Dieu, il nous faut apprendre sans cesse à connaître Dieu. Personne ne peut dire « ça y est, je suis arrivé à comprendre complètement tout ce que Dieu voulait que je comprenne ». Nous sommes tous en apprentissage. Et il faut pour cela nous exposer à la lumière de Dieu pour pouvoir ensuite la refléter. Il nous faut avoir reçu de Dieu pour pouvoir donner autour de nous. Verset 16, « Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour et de plus en plus. » Recevoir une part des richesses de Dieu, être rempli de son amour, vivre dans sa lumière, voilà notre premier impératif. Vous avez beau avoir le miroir le plus beau et le plus efficace, si vous ne l'orientez pas dans la bonne direction, il ne reflètera rien. Pour briller de la lumière de Jésus-Christ dans le monde, on a beau étudier des méthodes, élaborer des stratégies, confectionner des outils pertinents, apprendre la culture dans laquelle on vit. Si on ne va pas se ressourcer sans cesse auprès du Seigneur, tout cela ne servira pas à grand-chose. Cette lumière s'expose et ne se cache pas. Dans le prologue de l'Évangile selon Jean, la parole est venue pour être entendue. La lumière est venue pour éclairer et révéler. Verset 14, la parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, cette gloire il la reçoit du Père. Au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître. » C'est à nous maintenant de briller de la lumière de Jésus-Christ. On pense forcément à cette fameuse parole aussi de Jésus dans le Sermon sur la montagne qui dit « Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. » Matthieu 5, verset 15. Parce que briller, c'est s'exposer. S'exposer, c'est parfois se mettre en difficulté, voire en danger. On ne sait jamais comment les gens vont réagir à la lumière. Cacher la lumière sous un seau, la garder pour nous, bien au chaud, serait bien plus confortable. Mais c'est contraire à la mission de Dieu qui, elle, brille, rayonne, illumine. Avons-nous vraiment le désir de rayonner et est-on prêt à en assumer les difficultés que cela comprend, voire les risques que nous avons à prendre? Enfin, cette lumière s'offre à tous, mais ne s'impose pas. C'est le dernier aspect de la lumière de Jésus-Christ que je voudrais souligner maintenant. Dans le prologue de Jean, elle a brillé pour tous, même si beaucoup refusaient de la recevoir. Elle s'offre à tous, mais elle ne s'impose pas. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Verset 9. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Verset 11. La lumière de l'évangile est une lumière généreuse, qui ne choisit pas sa cible, un peu comme la semence que jette le semeur dans la parabole et qui tombe dans toutes sortes de terrains, même les terrains les moins hospitaliers. La lumière de l'évangile n'est pas un rayon laser, un faisceau lumineux intense qui concentre, qui vise, stigmatise ou agresse. C'est une lumière rayonnante et large, une lumière ouverte qui veut se diffuser et qui accueille. Il n'y a qu'à voir le ministère de Jésus qui allait à la rencontre de tous ceux que les autres rejetaient ou jugeaient. Et c'est à présent que j'en viens déjà à quelques mots de conclusion. Parler de la mission de Dieu, c'est parler de l'œuvre de Dieu dans l'histoire, dans le monde, dans notre vie. C'est reconnaître que tout ce que nous sommes et ce que nous avons, c'est à lui que nous le devons. Et c'est libérateur parce que le poids de la mission ne repose pas sur nos épaules, c'est l'œuvre de Dieu. Mais par grâce, la mission de Dieu passe aussi par nous. Elle traverse nos vies, elle va emporter nos églises. Et finalement, dans cette mission, on apprend plus qu'on ne sert. Parce que Dieu est intéressé d'abord par nous, avant d'être intéressé par ce qu'on pourrait faire dans sa mission. Cette mission déborde nos schémas et nos a priori, elle nous surprend. Laissons-nous éclairer par la lumière de Jésus-Christ et découvrons quel reflet elle est appelée à prendre dans notre Église, dans chacune de nos vies. Et je pense là aux circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui. Comment être témoin là où Dieu nous place maintenant, dans le confinement qui est le nôtre? Comment puis-je être témoin? J'ai vu circuler, que nous pouvons être témoins du coup par voie virtuelle sur Internet. Peut-être nous pouvons redoubler aussi de présence sur Internet. C'est ce que nous faisons d'ailleurs en tant qu'Église. C'est là en tout cas le cœur de notre mission. Quel reflet la lumière de Jésus-Christ est appelée à prendre maintenant dans ma vie et dans notre Église? C'est sur cette question que je nous laisse maintenant. En vous souhaitant une bonne fin de soirée si vous l'avez écouté le soir, ou une bonne journée si vous l'avez écouté dans la journée. J'espère en tout cas que vous vous portez bien, et je vais encore conclure par la prière. Notre Dieu, oui, ta parole est la vérité. Elle est lumineuse, elle éclaire notre route. Que par ton esprit, nous puissions discerner, comprendre maintenant quelle est ta volonté pour nous. Nous voyons dans ta parole que ta mission est vraiment grande. Et nous sommes privilégiés d'en faire partie. Nous voulons te bénir. Nous voulons te dire aussi que nous attendons avec patience ce jour où cette restauration du monde sera arrivée à son terme. Nous voyons aujourd'hui, avec les souffrances aussi que l'humanité traverse, et ces temps particuliers, que ton œuvre n'est pas encore finie, que tu veux encore réveiller des personnes de leur sommeil spirituel et que tu es rempli de grâce et d'amour pour chacun. Montre-nous, Seigneur, aussi quelle part nous devons prendre et donne-nous de ne pas surestimer notre part au sein de ta mission ni de la sous-estimer, car nous avons dû prier à tes yeux. Seigneur, je te bénis pour qui tu es, parce qu'en toi nous pouvons nous confier que ta parole reste un rocher sûr sur lequel nous pouvons nous appuyer. Ta personne même est un roc au jour de la détresse. Amen.